le club de C'est pas du vent sur RFI. Igor Strauss.
Bonjour à tous, bienvenue dans le club de C'est pas du vent. Vous le savez, tous les mercredis, des journalistes des différents services de RFI et d'autres médias engagés dans la défense de l'environnement se réunissent pour partager et débattre des sujets qui les ont marqués pendant la semaine. L'occasion également de découvrir les vidéos tournées par les membres du réseau Hip-Hop, le réseau des petites ondes participatives. Et cette semaine, à l'occasion de notre journée spéciale sur les 100 jours de Donald Trump, eh bien nous allons revenir sur toutes les mesures adoptées ou souhaitées par le président climato-sceptique qui auront des conséquences dramatiques sur le climat et notre planète. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Donald Trump s'est surpassé, sorti à nouveau de l'accord de Paris sur le climat, licenciement massif au sein de l'Agence de protection de l'environnement et de l'Agence nationale pour l'océan et l'atmosphère des États-Unis, déclaration de l'état d'urgence énergétique qui annule plusieurs mesures environnementales prévues dans le Green New Deal de l'administration Biden et qui simplifie l'exploitation des énergies fossiles. Drill, baby, drill, suspension de l'aide au développement international. Ce qui signifie l'arrêt immédiat de nombreux programmes d'aide dans les secteurs tels que la santé, l'éducation, l'accès à l'eau, l'assainissement, la sécurité alimentaire. Fin de l'usage des pailles en papier, parce que celles en plastique sont beaucoup mieux évidemment. Et que non, notre planète n'est pas du tout submergée par la pollution aux microplastiques. Ou encore, désir d'ouvrir l'extraction minière sous-marine dans les eaux internationales. Et ce, au mépris du droit, comme l'ont rappelé, ironie de l'histoire, la Chine et la Russie. Et parce que Non, l'océan n'est pas le principal puits de carbone qui régule la température de notre planète. Je m'arrête là alors que la liste est encore longue. En 3 mois, le président américain a ébranlé l'OTAN, déstabilisé l'économie mondiale, signé l'arrêt de mort de 2 millions de personnes. Mais le pire, selon Donald Trump lui-même, c'est que nous n'avons encore rien vu.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Marie Bellan.
Bonjour.
Vous êtes journaliste aux Échos, vous connaissez le principe de l'émission. Avant de revenir sur le sujet que vous avez suivi d'aborder aujourd'hui, quel est votre étonnement de la semaine ?
Alors, je ne sais pas si on peut parler d'étonnement ou plutôt de mise en garde, mais en tout cas, je vais vous parler du plastique, qui est un fléau pour l'environnement, vous l'avez dit, avec les microplastiques, mais aussi pour la santé humaine. Et c'est ce que nous dit de nouveau une étude du Lancet qui est parue hier. Donc, selon cette étude, 356 000 décès seraient liés dans le monde pour la seule année 2018 au phtalates. Alors, c'est compliqué à prononcer, mais c'est surtout dangereux. Ce sont des produits chimiques que l'on trouve notamment dans les articles ménagers en plastique. Alors, ça provoque notamment des maladies cardiaques. Et selon cette étude, ces 350 000 décès représentent plus de 13% de la mortalité mondiale due aux maladies cardiaques en 2018 chez les hommes et les femmes âgés de 55 à 64 ans. C'est une tranche d'âge un peu courte, mais ça fait quand même 13%.
Alors, c'est beaucoup.
Les trois quarts de ces décès sont concentrés dans certaines régions du monde, donc le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est et dans le Pacifique. Alors la Chine et l'Inde sont particulièrement touchées parce que ce sont de gros producteurs de plastique. Par ricochet de gros producteurs de déchets plastiques, avec des législations qui sont assez soft, on va dire, sur la régulation du plastique. Donc les phtalates se retrouvent, je l'ai dit, dans les articles ménagers, mais aussi dans les cosmétiques, les détergents, les solvants, les insecticides. Alors, et malgré l'étendue des dégâts sanitaires, dont cette étude fait une nouvelle fois état, on peut se dire que le plastique a quand même encore de beaux jours devant lui. Alors, vous l'avez rappelé, le back to plastic de Donald Trump, donc il préfère les pailles en plastique aux pailles en carton. Bon, mais ça, on sait ce que ça va donner, malheureusement. Mais ce serait presque anecdotique si on ne le replaçait pas dans un contexte plus global. Et là, je pense notamment aux négociations internationales qui ont eu lieu sur le traité mondial contre le plastique et se sont soldées par un échec à Busan en fin d'année dernière. Alors, il y a une session de rattrapage cet été à Genève, au mois d'août. Alors, on espère que les pays, et pour ne pas les citer, mais quand même l'Inde de nouveau, qui a été un des pays qui a le plus freiné et qui s'oppose vraiment très directement à la régulation, plutôt à la limitation de la production du plastique. Et c'est vraiment la question essentielle. Qui oppose en fait les deux blocs dans ces négociations.
Certains veulent faire du recyclage alors qu'on sait que à peine 10% du plastique est recyclé. Avec nous également dans ce studio, Raphaël Morand du service hispanophone de RFI. Hola, ¿qué tal, Rafa?
Bonjour, Igor. Hola, ¿qué tal?
Muy bien.
Muy bien.
Votre étonnement, en fait, c'est un émerveillement, Raphaël. Cette semaine, des chercheurs colombiens ont redécouvert le colibri de Santa Marta, observé seulement à quelques reprises depuis le 19e siècle, et qui vit sur un tout petit territoire de 30 km en Colombie, c'est ça?
Oui, c'est une belle histoire. laboratoire, des scientifiques colombiens se sont rendus dans la Sierra Nevada, au nord du pays, près des Caraïbes, à environ 2000 mètres d'altitude, pour identifier cette espèce de colibri qui n'avait été répertoriée que 4 fois par des scientifiques. Alors les colibris, on rappelle, ce sont ces petits oiseaux bariolés qui mesurent entre 5 et 10 cm. Ils butinent avec leur long bec les fleurs, ce sont des pollinisateurs, ils n'existent que sur le continent américain. Et ils sont notamment capables de voler en arrière ou de faire du surplace. On écoute leur battement d'ailes. Montez le son, tendez l'oreille.
Moi, je les vois.
C'est l'essentiel. En ce qui concerne le colibri de Santa Marta, on avait perdu sa trace, comme on le disait. Et en 2023, ce groupe de chercheurs a réussi à observer, à photographier, à enregistrer des exemplaires de ces petits volatiles à la robe bleue et verte irisée. Selon les chercheurs qui ont publié leur étude la semaine dernière dans un journal scientifique, ce colibri endémique du nord de la Colombie, une région vraiment extrêmement précise et réduite, existe bel et bien, mais il est beaucoup plus rare qu'on ne le pensait. Il n'est en fait présent que sur un territoire de 30 km². C'est plus petit que ce qu'on imaginait. Et il est en voie de disparition. La monoculture de la canne à sucre, les pesticides sont en cause. Et en revanche, ils survivent, ils vivent, ils sont présents dans les zones agricoles qui pratiquent l'agroforesterie. Donc c'est cette pratique agricole qui consiste à concilier l'agriculture et la forêt. Ces colibris qui sont un emblème de la santé de notre biodiversité.
Et qui sont des oiseaux absolument ravissants.
Magnifique.
Je les adore. À vos côtés, Raphaël Simon-Rosé et Pauline Glaise, les deux chefs du service environnement de RFI. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Salut patron.
Juste le temps d'une émission, moi. Ça va très vite s'arrêter. Pauline, on commence avec vous. Évidemment, galanterie oblige. Votre étonnement.
Alors, ce sera moins mignon que le colibri, mais j'espère faire aussi étonnant. C'est l'échidnée d'Australie. En fait, tout est étonnant dans cette petite bête qui ressemble plus ou moins à un hérisson, son nom déjà. Et puis, c'est un mammifère qui pond des œufs. Ça, c'est déjà pas commun. Et cette semaine, dans une nouvelle étude, des scientifiques viennent de lui faire cocher une nouvelle case des choses étonnantes qui lui sont attribuées. En fait, plusieurs des caractéristiques inhabituelles de l'échidnée se sont développées il y a des millions d'années lorsque ses ancêtres vivaient dans l'eau. En fait, il s'agit d'un mammifère semi-aquatique qui a abandonné l'eau pour une existence terrestre. Et c'est un événement extrêmement rare, mais les scientifiques pensent que c'est ça qui s'est produit chez les échidnées.
C'est beau la biodiversité, exactement, quand on la respecte. Simon Rosé, vous, votre étonnement, c'est sur l'immense panne d'électricité dans la péninsule ibérique, avec son cortilège, son flot de fake news.
Oui, un autre animal, le politicien de droite ou d'extrême droite, qui lui n'aime pas les énergies renouvelables et qui a trouvé dans le solaire et l'éolien le bouc émissaire parfait pour expliquer cette coupure de courant généralisée qui a touché la péninsule ibérique il y a deux jours. Sauf qu'on n'en sait rien, c'est peut-être le cas. Peut-être pas, on n'en sait rien, puisque le gestionnaire du réseau électrique espagnol mène toujours l'enquête et n'a pas identifié les causes de cette panne. Juste pour rappel, l'énorme majorité des causes de pannes similaires, qu'elles soient régionales ou nationales, comme on a pu le voir par exemple en Italie en 2003, la raison ne se trouve pas sur le système de production, ne se trouve pas sur une centrale, mais sur les moyens de transmission. En gros, les lignes à haute tension. Le blackout de 2003 en Italie, ce qu'il avait causé, c'était une ligne qui avait touché un arbre et qui avait fait un arc électrique et qui avait entraîné en cascade des effets qui avaient abouti à un blackout généralisé de toute l'Italie. On ne sait pas ce qui s'est passé en Espagne, mais avant de crier sur les énergies renouvelables, attendons de savoir, en fait, tout bêtement.
Allez, on en a fini avec les étonnements. On va passer à notre sujet du jour concernant les 100 jours de Trump.
Le club de C'est pas du vent sur RFI. Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Marie Bellan, la compagnie canadienne The Metals Company a annoncé hier avoir déposé la première demande d'exploitation minière dans les eaux internationales, malgré le combat des défenseurs des océans. Pour empêcher cette nouvelle industrie, la demande d'exploitation commerciale déposée auprès des autorités américaines concerne les parcelles d'un total de plus de 25 000 km² dans la zone de Clarion-Clipperton dans le Pacifique. Et vous souhaitiez revenir sur ce qu'on appelle en anglais le deep sea mining, mais sur les dangers de l'exploitation l'exploitation des fonds marins profonds.
Oui, en effet, dans la série, ben, je ne fais jamais rien comme tout le monde. Mais donc, le président Trump a en effet décidé d'autoriser l'exploitation de ces grands fonds marins, alors notamment pour y extraire des métaux comme le cobalt, le nickel ou encore le cuivre. Alors, le décret a été signé il y a quelques jours à peine et il autorise, c'est ce qui est un peu choquant, l'exploitation. Pas l'exploration, hein. L'exploitation, ouais, je dis bien, dans les eaux américaines, mais aussi dans les eaux internationales, ce qui est plus étonnant.
Alors, parce les gains... qu'il pose un sérieux problème de droit.
Exactement. Bon, ça, c'est le premier sujet. L'autre... Alors, les gains espérés par l'administration américaine sont mirifiques. On nous parle de 100 000 emplois, 300 milliards de PIB sur 10 ans. Enfin, bon, ça fait tourner la tête tellement ces chiffres sont impressionnants. L'objectif, c'est bien sûr de rattraper la Chine dans la course aux métaux et aux terres rares. Ça, on sait que c'est une question importante. Mais cette décision, elle étonne quand même à plusieurs chefs. On l'a dit sur le plan juridique, mais aussi parce que l'AIFM, donc, qui est l'autorité internationale chargée de la gestion des fonds marins, est justement en train d'essayer de rédiger un code minier pour encadrer ce type d'exploitation. Et elle doit rendre sa copie cet été-là. Donc, bon, sûrement un délai jugé trop court par Donald Trump, qui est toujours pressé d'agir, mais aussi par la fameuse petite compagnie canadienne dont vous avez parlé, The Metal Company, qui est, il faut le dire, la seule entreprise à ce jour à s'être lancée, enfin à vouloir se lancer à toute force dans l'exploration des fonds marins, et qui demande depuis des années déjà une autorisation. Le deuxième point d'étonnement, c'est quand même, et vous l'avez mentionné, les risques donc sur la biodiversité marine. Ils sont largement inconnus, parce que ce sont quand même des zones où on ne va pas souvent. Hein. C'est quand même
on parle de profondeur, voilà, c'est 4 000 à 8 000 mètres de profondeur. Donc c'est des zones méconnues.
Exactement, ce n'est pas très accessible, on ne sait pas très bien ce qui s'y passe, dont les risques potentiels sur la biodiversité sont très importants, sur les écosystèmes marins, mais aussi indirectement sur le climat, puisqu'on sait qu'il y a quand même un lien assez direct entre tout ça. C'est donc une source d'inquiétude pour la communauté scientifique qui a appelé pour sa part à un moratoire sur l'exploitation de ces fonds marins. Moratoire, je le dis quand même, qui est soutenu par la France, qui est quand même bien isolée sur ce point-là, puisque la plupart des pays, alors s'ils ne militent pas ardemment, comme le fait Donald Trump, pour une exploitation là immédiate, ne veulent se fermer aucune porte. Alors bon, dans ce clan-là, il y a la Chine, l'Arabie Saoudite, mais aussi par exemple l'Allemagne, la Belgique, hein, qui disent bon, dans le moratoire quand même, là, ça allait un peu trop loin. Et je prends un dernier exemple européen, la Norvège, qui voulait se lancer dans l'exploitation de ses fonds marins également, mais qui a dû reculer il y a à peine quelques mois sous la pression de l'aile gauche de son gouvernement, qui pour rentrer dans la coalition a dit voilà, si vous faites ça, nous on rentre pas, donc il y aura pas de coalition. Donc, là, pour l'instant, la Norvège a mis entre parenthèses son intention d'exploiter les fonds marins au large de ses côtes. Alors, le troisième point qui est aussi très étonnant, et là, bon, comme je travaille pour un journal économique, c'est un point sur lequel j'aime bien insister, mais c'est aussi l'intérêt économique qui est quand même très discutable. Parce que ces métaux qui sont donc contenus dans ces nodules polymétalliques, ben, ils ne sont pas si rares que ça sur Terre. Par exemple, le manganèse, il y en a quasiment autant sur Terre que dans les mers. Donc...
Un pays comme la RDC, hein, nos auditeurs le savent très bien, mieux que nous, regorge de tous ces minéraux rares.
Par exemple. Donc, du coup, quel est l'intérêt d'aller si profond sous la mer alors qu'on a quand même voilà, des ressources minières qui seraient accessibles beaucoup plus facilement? Et la demande, notamment, alors là je pense au nickel, au cobalt par exemple, la demande a quand même tendance à baisser parce que si on regarde les nouvelles générations de batteries de voitures électriques, elle marche plutôt au lithium maintenant. Enfin, en tout cas, les Chinois sont passés sur cette technologie. Et donc, on a beaucoup moins besoin. Et on se dit qu'on aura peut-être beaucoup moins besoin dans le futur de ces métaux que sont le nickel et le cobalt. Et enfin, le principal enjeu aujourd'hui, notamment pour ces métaux sous terre rare, c'est de construire des usines de raffinage et pas tellement de les exploiter. Ce n'est pas ça le vrai sujet. Donc, du coup, l'exploitation ne serait pas finalement si crucial en fait dans la course aux métaux dans lesquels on s'est lancé. Et c'est pas un hasard si seule une entreprise pour l'instant, je prends l'exemple d'Eramet par exemple, qui est une entreprise d'extraction minière.
C'est une entreprise française
qui n'a pas du tout déclaré d'intérêt pour ce type d'exploitation parce que justement eux ils considèrent que ce n'est pas rentable économiquement.
Voilà. Mais justement il y a plein d'entreprises multinationales qui se sont déclarées contre l'exploitation de ces fonds marins. Je pense à BMW, Google, qui sont quand même pas des entreprises écologiques. Est-ce que à partir du moment où ces grosses multinationales souhaitent ne pas acheter ce métaux, est-ce qu'économiquement c'est viable encore derrière?
Ça pose de nouveau cette question de la rentabilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, un, c'est très coûteux, et deux, il n'y aurait pas de marché éventuel, puisqu'on a à disposition ce genre de métaux carrément de manière beaucoup plus facile, je veux dire, pardon, en restant dans une exploitation purement terrestre.
Et puis on pourrait recycler nos vieux téléphones, par exemple, c'est ce que préconisent évidemment les défenseurs de l'environnement. Simon Rosé.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que TMC, The Metals Company, cette société canadienne, c'est une start-up en fait, qui n'a jamais rien fait avant ça, bah, qui du coup n'a toujours rien fait, à part, elle a eu quelques permis d'exploration de la part de l'AIFM pour aller recenser un peu ce qui se trouvait au fond, mais n'a jamais exploité à proprement parler. C'est une start-up qui est aux abois, puisqu'elle est sur le dossier depuis plusieurs années maintenant. Elle est cotée en bourse. Comme le disait Marie, elle attendait les négociations, l'issue des négociations à l'Autorité internationale des fonds marins qui ont traîné en longueur. Et en attendant, son cours en bourse s'est effondré. Elle ne vaut aujourd'hui qu'un peanuts de ce qu'elle valait il y a quelques années encore. Donc, cette urgence aussi, elle se trouve là. La demande a été déposée auprès des autorités américaines qui ont 6 mois désormais pour y répondre. Et triste ironie, c'est la NOAA, donc l'administration américaine en charge des océans et de l'atmosphère, qui est chargée d'instruire ce dossier.
Alors que Trump est en train de procéder à des licenciements massifs
et
au sein de la NOAA.
Et au-delà de ça, comme le disait Marie, les questions de droit international sont... C'est ironique, très passionnante derrière ça, puisqu'on est effectivement dans une zone internationale. Mais les États-Unis ont certes signé le traité sur la haute mer, sur le droit de la haute mer
des Nations Unies,
mais ne l'ont jamais ratifié. Mais on est vraiment sur un comportement en termes d'atteinte au multilatéralisme où c'est en gros, c'est moi le plus fort, je fais ce que je veux. Mmh. Et alors que l'océan, le plancher océanique est reconnu comme patrimoine commun de l'humanité et qu'il n'y a pas de droit dans le droit international d'appropriation de ces ressources, de ce qu'on y trouve. Pourtant, c'est ce qui se dessine à l'heure actuelle.
Et rappelons que l'océan stocke 31% du carbone émis par nous, les humains, avec nos activités économiques. Vous voulez réagir un petit peu, Raphaël ?
Oui, peut-être un petit commentaire sur les grands fonds marins qui sont encore mal connus des scientifiques. Il y a des expéditions régulièrement dans les grands fonds marins du Pacifique et à chaque fois, les expéditions découvrent de nouvelles espèces. Donc ce sont des espaces mal connus. Le bureau de surveillance géologique britannique a mené une étude là, dans la zone Clarion-Clipperton il y a un an pour étudier 44 ans après une zone où ont été menés des exercices de reconnaissance minière. Et 44 ans après, les traces de ces tentatives d'exploration marine des minières, des fonds marins étaient encore visibles avec très très peu de retour de la faune. Donc il est quand même très très probable que cette activité soit complètement destructrice pour l'environnement si jamais elle venait à être autorisée.
Oui, on peut détruire un monde qu'on ne connaît pas encore, encore étudié, Simon Rosé.
On parle des grands fonds, mais en fait c'est une activité qui a également une conséquence sur toute la colonne d'eau, donc c'est-à-dire sur 8000 mètres. De 4 à 8 000 mètres d'eau, parce qu'il y a des bateaux en surface, des robots au fond, et entre les deux, y a des tuyaux, il y a des colonnes, ça fait du bruit, il y a des sédiments qui sont rejetés, il y a des liquides qui sont utilisés pour l'activité. Et tout ça est très, très, très mal connu, très peu étudié encore pour l'instant, mais bon, on se doute que ça n'aura pas forcément de bonnes conséquences pour un environnement, un écosystème qui a encore été relativement préservé des activités humaines jusqu'à présent.
Allez, je vous propose de faire une première petite pause en musique et puis évidemment, on se retrouve juste après. Voici Spirits in the Material World de Groundation sur RFI.
There is no political solution, to our troubled evolution.
Trouble.
So I have no faith in constitution.
No faith at all.
There is no bloody revolution. How they subjugate the meek,
meekly wait and murmur not.
But it will be a rhetoric of failure.
living from day to day. If there is something we can't buy,
money, money, money rule away,
there must be another way.
Spirits in the Material World, The Groundation, des artistes de la playlist de RFI que vous pouvez retrouver évidemment sur vos plateformes préférées.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à cestpasduvent@rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Aujourd'hui, c'est la version club d'une émission spéciale sur la stratégie du chaos 100 jours de Trump avec Marie Belland des Échos, Raphaël Morand, Simon Rosé et Pauline Glaise de RFI. Raphaël Morand, c'est à vous. Vous souhaitez revenir sur le détricotage des législations environnementales américaines décidées par Donald Trump.
Oui, pas une semaine ne passe sans que l'administration Trump n'annonce des dérégulations, des exemptions, des reculs sur la législation et la politique environnementale. Alors, je ne vais pas vous faire la liste de toutes les mesures énormes abolies durant les premiers 100 jours de mandat de Trump. Il ne nous reste qu'une demi-heure d'émission. Je vous en cite quelques-unes quand même très, très préoccupantes. Mi-avril, suspension d'un projet éolien offshore au large de New York. Début avril, Trump exempte 47 entreprises énergétiques de leur obligation à réduire les émissions de mercure dans les centrales à charbon. On rappelle que le mercure, c'est un des métaux lourds très dangereux pour la santé. Le président promet aussi que le secteur de l'intelligence artificielle pourra utiliser des centrales à charbon, recourir aux centrales à charbon catastrophiques pour le climat, pour s'alimenter en énergie, puisqu'elles sont très gourmandes. Fin mars, l'administration Trump annonce qu'elle remet en cause 300 programmes de subventions pour la transition énergétique. Alors ça va de la fin du financement de think tanks sur les énergies propres à la suppression de programmes d'isolation des bâtiments, en passant par la fin des programmes d'autopartage, par exemple. Mais le démantèlement le plus décisif en matière de régulation environnementale vient, paradoxalement, de l'Agence de protection environnementale elle-même, l'EPA, reprise en main par Donald Trump et dont le budget pourrait être amputé de 65%. C'est ce que nous explique Holly Burke, porte-parole de l'ONG Evergreen, interviewée par Pauline Glaise.
Le président a signé des décrets pour exempter certaines entreprises de certaines normes environnementales. L'Agence de protection de l'environnement, l'EPA, a mis en place une boîte mail à laquelle toute entreprise peut s'adresser pour demander d'être exemptée d'une régulation environnementale. Et c'est ensuite à l'EPA de décider de manière discrétionnaire si elle est d'accord ou pas de cette exemption. Connaissant le profil du directeur de l'EPA, nommé par Trump, nous savons qu'il sera très enclin à accorder des exemptions aux limites de pollution.
Voilà, donc aujourd'hui, si vous êtes une entreprise américaine et que vous, la législation, les freins à la pollution ne vous conviennent pas, vous envoyez un mail et vous avez une chance que la législation puisse ne pas s'appliquer à vous.
C'est de la simplification.
Voilà, c'est exactement. Dans ce cas-là, plus drastique. Lee Zeldin, donc le directeur de cette agence qui a été nommée par Trump, cette agence qui est censée, je le redis, contrôler la pollution de l'air, de l'eau, de réguler les rejets des entreprises polluantes, a annoncé au début du mois de mars la plus grosse entreprise de dérégulation de l'histoire du pays. C'est comme ça qu'elle a été présentée par le directeur. Il a publié une liste de 31 normes environnementales qui pourraient simplement disparaître. Elles seront révisées. Et des normes relatives, par exemple, aux émissions de gaz à effet de serre, à la pollution atmosphérique toxique, on parlait du mercure, à la protection de l'eau potable, aux déchets issus de l'extraction des combustibles fossiles. Un changement de cap complet par rapport au gouvernement Biden-Harris qui avait instauré un certain nombre de garde-fous après le premier mandat de Trump où avaient été abrogées des dizaines de législations environnementales, justement. Un changement de cap qui inquiète Holly Burke de l'ONG environnementale Evergreen. On la réécoute.
La pollution de l'air n'était pas réglementée au niveau fédéral jusqu'à ce que l'administration de Joe Biden et Kamala Harris instaure des limites. Or, le nouveau directeur de l'Agence de protection environnementale, l'EPA, nommé par Trump, a indiqué qu'il travaillerait dur pour défaire cette régulation. Il y a quelque chose de plus inquiétant encore. Le directeur de l'EPA veut remettre en cause la constatation de mise en danger, une disposition qui établit que la pollution au CO2 est dangereuse pour la santé. Si cette disposition tombe, il sera possible de défaire toutes les régulations sur la pollution de l'air.
Voilà, donc le gouvernement, l'administration Trump, on le comprend, remet en cause ce lien hein, entre pollution et santé humaine qui est quand même fondamental et qui sert de base fondamentale pour les politiques de protection de l'environnement. Et tout cela, pourquoi ? Eh bien, c'est l'application de la promesse de Trump de relancer les énergies fossiles pour doper l'économie, la production d'automobiles, l'emploi, mais au détriment du climat, de l'environnement et de la santé des Américains.
Gina McCarthy, hein, l'ancienne administratrice de l'EPA hein, sous Barack Obama, a qualifié le 12 mars de jour le plus désastreux de l'histoire de l'EPA. L'annulation de ces règles n'est pas seulement une honte, a-t-elle dit, c'est une menace pour nous tous. L'agence a totalement renoncé à sa mission de protection de la santé et du bien-être des Américains. C'était pour aller dans votre sens, Raphaël. Oui. Simon, ça vous fait réagir?
Pour quel résultat ? Puisque, comme le disait Raphaël, l'idée, c'est de libérer les énergies pour libérer les fossiles. C'est un peu ce qu'avait essayé de faire Donald Trump durant son premier mandat, notamment sur le charbon. On se souvient des mineurs de charbon de Pennsylvanie qu'il avait mis en avant durant sa première campagne. Sauf que durant son premier mandat et depuis lors, la consommation de charbon aux États-Unis a continué de baisser. Pourquoi ? Bah, parce que ça reste plus cher. Et que derrière, bah, y a l'économie et bah, les gens ils vont brûler quelque chose qui est moins cher que du charbon. Donc là, toute la question est désormais sur la demande justement qu'il va y avoir pour ces énergies fossiles. L'Agence internationale de l'énergie anticipe une baisse de la demande pour le pétrole en raison de la guerre commerciale actuelle d'ici la fin de l'année. On est à un niveau du baril qui est aux alentours de $60 le baril. Ce n'est pas avec ça que les grands pétroliers vont faire des investissements. Ça leur coûte trop cher. Ce n'est pas rentable pour eux. Donc, toute cette libération, toute cette dérégulation pour permettre l'essor de Big Oil, de ce quartet d'entreprises américaines pétrolières, à voir pour quel résultat. En tout cas, ils en ont eu pour leur argent. On se souvient durant la dernière campagne présidentielle américaine, ce rassemblement à Mar-a-Lago, donc la résidence de Donald Trump en Floride, où il avait demandé $1 milliard à justement ces industriels en échange pour financer sa campagne, en échange d'une dérégulation totale. Bon, bah, il a fait le boulot.
Il a fait le boulot, mais pour quel résultat ? Oui, Marie, vous voulez réagir ?
Oui, pour aller dans le même sens, puisqu'on parle de rentabilité, il faut aussi se dire que la rentabilité des énergies renouvelables, solaire en particulier, a énormément baissé. Un État comme le Texas, qui est un État républicain, c'est un peu l'ironie de l'histoire, il a une partie de sa puissance économique aujourd'hui qui est assise quand même sur l'exploitation donc de panneaux solaires et de fermes solaires. Donc ce discours effectivement de relancer le pétrole, le gaz, il va quand même se heurter très très vite effectivement à la demande parce que ces énergies sont aujourd'hui moins chères.
Elles sont moins chères, elles sont plus rentables.
Voilà. Ouais.
Oui, Dallas, ton univers impitoyable, le pétrole,
la fameuse Texas, série de l'époque.
Voilà, sur les pétroliers, sous Hélène, tout ça. Le Texas, c'est aujourd'hui l'État américain qui produit le plus d'électricité d'origine renouvelable. Le Texas, voilà.
Allez, chaque semaine, nous mettons en avant un vidéaste amateur du réseau hip-hop pour Petites Ondes Participatives. C'est un réseau qui recueille des témoignages partout sur le continent pour illustrer des problématiques locales. Voici donc la chronique de Julia Pache.
Aujourd'hui, direction la République démocratique du Congo et plus précisément à Mutao, dans l'est du pays, où nous partons à la rencontre de Sina Menye. Son quotidien est difficile, dans sa région, l'eau potable est rare et pas toujours accessible. Mais Sina Menye ne baisse pas les bras, il cherche, avec les autres habitants du village, des solutions pour améliorer l'accès à cette ressource vitale. Ce reportage hip-hop, intitulé « Mutao, un village sans robinet », a été réalisé par Fisto Muindo Muini, et nous allons en écouter un extrait.
Je m'appelle Sinameye Seker Awambo, le plus vieux du village. Depuis longtemps, notre village n'a pas d'eau potable. À cette période, il ne peut plus et c'est compliqué pour nous d'avoir de l'eau. Quand la pluie ne tombe pas, on doit aller jusqu'au lac Kivu, à une trentaine de kilomètres d'ici. La plupart du temps, en période de sécheresse, ben nous dormons sans manger. Ici, si tu veux rester en vie, il faut faire des kilomètres et aller à Kibati, à Nyakamba ou au lac pour trouver de l'eau. C'est vraiment seulement l'eau dont nous avons besoin. C'est notre seul problème. Mais quel problème ? Nous nous considérons comme des morts-vivants ici. Tu peux avoir à manger, mais tu n'auras pas d'eau pour préparer ton repas. Et même nos bananiers sont frappés par la sécheresse. Alors que ces bananiers représentaient une réserve d'eau en cas d'ultime urgence. Nous voulons être comme tout le monde, donc avoir accès à l'eau potable. C'est seulement ça notre problème.
Bonjour Fiston Mwindo.
Bonjour Julia.
Merci d'être avec nous pour nous présenter ce film. Comment avez-vous rencontré Sina Meunier et les habitants du village et qu'est-ce qui vous a intéressé dans leur histoire?
Je dois d'abord préciser que je suis journaliste à l'Est, donc à Goma, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et si je suis parvenu à rencontrer M. Sina Meunier, c'était en quête de mes reportages pour parler un peu de ce que ressent la population de Mutaro par rapport à son accès à l'eau potable. Alors, j'ai rencontré le monsieur qui a accepté de parler de ses difficultés et de son histoire, comment cette population, ces villageois, accèdent à l'eau potable. Si je peux parler sur le plan santé, c'est que imaginez-vous des enfants et des femmes et des vieillards qui doivent faire plus de 30 km à pied pour seulement avoir de l'eau potable. Et sur le plan économique, parce que cette population doit acheter de l'eau.
Votre film a été réalisé en 2021. Savez-vous si des mesures ont été mises en place depuis la réalisation du film?
Bon, en fait, après la réalisation de notre film, on a été un peu en contact avec ceux qui sont chargés d'approvisionner la population à l'eau et l'électricité dans la province du Nord Kivu. Ils nous ont rassurés qu'ils vont essayer de voir comment comprendre cette situation. Malheureusement, les processus commençaient à être entamés, mais malheureusement, un an après qu'il y a eu éruption volcanique, le volcan qui a ravagé presque toutes les installations des villages environnants. Et maintenant, aujourd'hui, voilà, on assiste à la guerre. Et voilà, Mutaro qui continue de vivre la même réalité. Le peu de réserves sont disparues et aussi tous les champs des bananiers ont été également ravagés par le volcan.
Merci beaucoup, Fiston Mouindo, pour votre éclairage.
Voilà, merci beaucoup, Julia.
Et merci à vous, effectivement, Julia Pache, pour cette chronique hip-hop. Une chronique qui vous fait réagir, Simon Deux, Simon Rosé.
Pour rester dans le thème de l'émission et des conséquences des 100 premiers jours de l'administration Trump, on peut penser au retrait, notamment du fonds Pertes et Préjudices, qui avait été acté lors de la COP à Dubaï il y a deux ans, la COP 28. Fonds qui consiste, en gros, à dédommager les pays les plus vulnérables touchés par des catastrophes climatiques pour qu'ils ne dépensent pas d'argent à réparer, mais à investir pour s'adapter aux conséquences du réchauffement climatique. Les États-Unis contribuaient peu, hein, 25 millions de dollars pour le pays principal responsable historique du changement climatique. C'était très peu. Bah, ce très peu, il disparaît. Et au-delà de ça, les États-Unis étaient quand même l'un des premiers bailleurs de fonds internationaux en matière de projets verts via leurs différentes agences de développement et notamment l'USAID. Ça se compte en milliards de dollars de projets qui ont été abandonnés en Afrique. Igor, vous étiez au Tchad il y a quelques semaines, vous pouvez en témoigner, vous l'avez vu sur le terrain.
C'est du concret, exactement. Mmh. Bah, y a plein de projets qui sont arrêtés. Donc l'accès à l'eau est problématique, donc l'accès à l'agriculture, donc l'accès à la nourriture et à la vie, tout simplement. Mais vous parliez de chiffres, moi je les ai, le Fonds vert des Nations Unies, les Américains donnaient 4 milliards de dollars. C'est des sommes considérables qu'il n'y a plus, voilà, pour permettre aux pays en développement bien de s'adapter. Et via USAID, c'était 3 milliards de dollars pour s'adapter au réchauffement climatique.
Et ça, c'est seulement via le Fonds vert, mais en plus, à côté de ça, il y a des partenariats bilatéraux, il y a ce qu'on appelle les JETPIS, les partenariats pour une transition juste. Il y en avait notamment avec l'Afrique du Sud, avec l'Indonésie, je dis ça de tête, qui ont été annulés également. Et là, c'est des sommes qui se comptent en centaines de millions, voire milliards de dollars.
Allez, une petite pause en musique avec War Pigs de Black Sabbath sur RFI.
Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning brainwash minds. Oh, Lord, yeah.
Oh.
C'était War Pigs de Black Sabbath sur RFI.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Vous écoutez C'est pas du vent, suite et fin de notre club des journalistes consacré aux 100 jours de Donald Trump avec Marie Belland des Échos, Raphaël Morand, Simon Rosé et Pauline Glaise de RFI. On va passer finances maintenant avec vous, Pauline Glaise, toujours pour aborder ces 100 jours de la présidence Trump.
Oui, alors donc il y a eu contre les mesures, les attaques de Donald Trump contre les mesures environnementales ont aussi une influence en termes d'engagement de la finance. Donc il y a plusieurs grandes banques américaines qui se sont retirées, par exemple de la Net Zero Banking Alliance. Donc c'est une alliance mondiale des banques pour le climat. Elle a été mise en place lors de la COP26 de Glasgow en 2021. Et dans ces retraits, on ne parle pas de petits établissements. Hein. On parle de Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America,
les plus grosses, quoi.
Ouais, tout à fait. Il y a Wells Fargo également, Goldman Sachs. Donc, ce sont des retraits qui sont intervenus fin décembre, début janvier, pour certaines d'entre elles déjà un peu plus tôt en décembre. Donc, je triche un peu, ce n'est pas tout à fait les 100 jours, mais c'est intervenu après l'élection en tout cas. Alors, il n'y a pas eu forcément de justification de ces banques, mais les banques, elles vont là où les mènent leurs intérêts. Elles sont aussi un peu averses au risque, donc elles se sont un petit peu mises en retrait. D'autres banques aussi ont suivi à l'étranger, au Canada et au Japon. Et résultat, cette NZBA est passée de près de 150 membres à près de 128. Et face à ces départs, elle a revu son règlement mi-avril. Il est désormais un peu moins exigeant. Les directives sont devenues de simples orientations, les exigences des recommandations. Ouais, voilà. Et puis les chiffres aussi, donc ça joue un peu sur les mots à chaque fois, hein, mais l'objectif de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré a été remplacé par bien en dessous de 2 degrés en s'efforçant d'atteindre 1,5 degré. Donc voilà, une ambition qui est quand même revue à la baisse.
Alors ça, c'est pour les banques, Pauline, ouais. Mais il y a une autre alliance net zéro, c'est l'alliance pour la neutralité carbone des gestionnaires d'actifs. Expliquez-nous.
Alors, elle a mis ses activités sur pause mi-janvier. Alors, donc, les gestionnaires d'actifs, en gros, ce sont les fonds qui vont placer l'argent dans plusieurs fonds, etc., dans les finances. Donc, ils sont assez importants.
Donc, gros investisseurs.
Sur la finance. Et ça, si elle s'est mise sur pause, ça fait suite au retrait de BlackRock de cette alliance. BlackRock, c'est un super géant du secteur. Hein. C'est plus de 11 000 milliards de dollars d'actifs. Ce départ, BlackRock ne l'avait pas forcément justifié par l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Mais le fonds était sous la pression conservatrice depuis plusieurs mois, plusieurs années. Il y a eu d'autres éléments aussi. Hein. Ils ont été attaqués justement parce que les fonds ESG dans lesquels ils étaient engagés n'étaient pas forcément respectés. En tout cas, c'est ce qu'estimaient des plaignants plutôt du coup défenseurs de l'environnement. Mais voilà, il y avait vraiment une pression depuis plusieurs années dans certains États contre les fonds ESG. Donc ESG, c'est
responsabilité environnementale et sociétale des entreprises.
Exactement. Et puis la coïncidence est quand même assez intrigante. Ils s'en sont retirés une dizaine de jours avant l'investiture de Donald Trump. Donc voilà, quand même beaucoup de choses qui ont coïncidé.
Bon, bah écoutez, ça c'est du lourd. Ça vous fait réagir, Simon Rosé, non ?
C'est au diapason de ce qu'on dit depuis 50 minutes maintenant. Hein, c'est que
Marie Bélan, oui, vous qui êtes des Échos, quel regard vous portez justement, porte votre journal peut-être, sur toutes ces décisions économiques?
Alors, c'est vrai que les secteurs financiers, les banques n'aiment pas trop la régulation. Donc, si on leur donne la possibilité de s'en affranchir, généralement, elles sautent sur l'occasion. Et je pense qu'il y a de la part de ces grandes banques, effectivement, une forme de reprise de leur liberté en se disant ben, on a plus besoin de respecter ces normes ESG. Là, je crois que dernièrement, elles sont un petit peu moins réjouies quand même de l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, parce que vu comme les marchés financiers ont souffert ces derniers jours, beaucoup d'entre elles se sont dit qu'il allait quand même falloir le remettre dans le droit chemin. Alors, pas forcément climatique, hein, mais en tout cas, là, le secteur financier n'est pas forcément très enthousiaste.
Le secteur financier, le secteur de l'automobile est vent debout contre les dernières décisions douanières de Donald Trump. Finalement, il se fait beaucoup d'ennemis parmi ses anciens amis.
On peut dire ça comme ça, et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle il a quand même beaucoup reculé par rapport aux premières annonces qui sont un peu des fanfaronnades, parce qu'on a un peu l'impression qu'il veut marquer un grand coup en annonçant des choses impossibles en fait à mettre en œuvre en quelque sorte, et qui surtout ont des conséquences délétères sur les marchés financiers, je l'ai dit, mais peut-être aussi un peu plus tard sur l'inflation et sur les prix. Je rappelle qu'une des grandes promesses de campagne de Donald Trump, c'est de faire baisser les prix. Et les Américains, ils sont très sensibles. Ça, pour le coup, les marchés financiers, ils sont un peu sensibles aussi quand même avec les fonds de pension, parce que beaucoup de retraités ont quand même une partie de leur retraite
voilà, dans ces fonds de pension.
Donc là aussi, je pense que les Américains, au-delà donc, des acteurs du secteur financier, commencent à se dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi quand même.
Simon Rosé.
En revanche, il y a tout un secteur d'acteurs financiers qui a bien compris que le réchauffement climatique était réel et qu'il avait des conséquences lourdes, c'est le secteur de l'assurance.
Parce qu'on a eu cette alerte. Des milliards pour dédommager.
On a eu cette alerte il y a quelques semaines du numéro 3 d'Allianz, qui estimait probable, dans les conditions actuelles sur les trajectoires climatiques dans lesquelles nous sommes, de la fin du capitalisme, d'un système qui s'effondre, parce qu'en fait, il n'y a tout simplement plus assez d'argent pour assurer des actifs et des opérations. En raison des catastrophes climatiques, de leur coût de plus en plus élevé sur l'économie réelle, les assurances n'ont plus les reins assez solides pour faire leur travail. Donc il y a un secteur, vous voyez, qui a plutôt ouvert les yeux sur le sujet.
Ouais, bon. Les assurances qui ont quand même toujours des actifs dans des entreprises pas forcément très bonnes pour le climat. Donc il y a un peu double discours aussi.
Allez, on poursuit ce petit tour de table sur les 100 jours de Trump au pouvoir. Simon Rosé, je vais vous redonner la parole. Vous souhaitez nous expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau international, les conséquences au niveau international de toutes ces décisions, alors concernant l'environnement et la finance. Mais voilà, les conséquences au niveau international de ces décisions de Trump.
Elles sont multiples. Il y a déjà le niveau zéro, jour 1 du nouveau mandat de Donald Trump, la sortie de l'accord de Paris. Ça va de pair avec toute une série de décisions qui ont été prises ensuite, c'est-à-dire que les scientifiques américains ne participent plus au GIEC, les groupes d'experts intergouvernementaux sur le climat. La recherche climatique dans son ensemble, si on prend ce premier volet, les États-Unis sont de loin le pays qui y contribue le plus, notamment on l'évoquait, la NOAA, donc l'administration américaine pour l'étude des océans et de l'atmosphère, qui était vraiment le centre de référence sur le sujet dans le monde, puisqu'elle est en train d'être démantelée. Ces centres de recherche sont fermés les uns après les autres. Ces scientifiques sont renvoyés. Les scientifiques américains des agences fédérales qui ont désormais interdiction de communiquer à l'extérieur avec leurs collègues,
notamment avec
à l'étranger.
L'Institut, avec l'IFREMER.
Par exemple, si on prend l'exemple français.
Ça c'est fou.
C'est fou, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et donc, toute la science climatique risque de payer vraiment un très, très lourd tribut, étant donné l'importance de l'écosystème américain sur le sujet. Un exemple, les températures océaniques. Aujourd'hui, on a des courbes, on sait quelle température il fait sur la surface de l'océan et même à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Pourquoi ? Parce qu'on a des bouées qui sont capables de couler avec des capteurs qui envoient tout ça ensuite par satellite. Ces bouées, elles sont financées à 50% par les États-Unis. Si demain, ça s'arrête, on n'a plus ces données. Comment est-ce qu'on fait nos modèles ? Comment est-ce qu'on fait nos prévisions météo ? Et c'est là même où ils se tirent une balle dans le pied. J'ai déjà pris cet exemple dans l'émission, mais le National Weather Service, donc le service public américain de météo, pareil, est en train d'être démantelé. Les agriculteurs américains, ils ont besoin d'avoir des prévisions de météo fiables sur une semaine, sur 10 jours, pour savoir quand planter, quand faire leur semis, quand récolter. C'est des choses qui sont en train d'être cassées pour les habitants de Floride. Le National Hurricane Center, donc le centre d'études des ouragans, pareil. Donc, ça veut dire que les prévisions de trajectoire, de date, quand la tempête va taper la côte, tout ça va être beaucoup moins précis. Donc, il y a tout ce pan de la recherche fondamentale, de la création du savoir et de sa dissémination. On l'a déjà dit, mais des champs de recherche qui ont complètement été bannis, qui ne reçoivent plus de financement fédéraux. Si vous mettez changement climatique, femmes, on parle des sciences de la... C'est Valérie Masson-Delmotte, climatologue française, qui le tourne comme ça, les sciences de la durabilité, en fait. Et qu'est-ce que c'est que l'opposé de la durabilité ? C'est le profit immédiat, et c'est ce qu'on voit actuellement. Ça, c'est le premier niveau, c'est vraiment sur la fabrique de la science aujourd'hui. Après, il y a les conséquences à plus ou moins long terme, et notamment sur la lutte contre le réchauffement climatique. Les États-Unis sont le premier émetteur historique. C'est eux qui ont contribué le plus au réchauffement climatique. Ils ont une responsabilité à cet égard qu'ils n'ont jamais assumée pleinement. Ils n'ont jamais été un champion du climat. La dernière année de mandat de Joe Biden, les émissions américaines n'ont diminué que de moins 0,4%, ce qui n'est pas du tout au niveau attendu d'un pays comme les États-Unis avec les responsabilités qu'ils ont. En ce sens, je vais être un peu provocateur, l'arrivée de Donald Trump ne va pas changer grand-chose. Ce qui est terrible, là, pour faire écho à ce que disait Raphaël, c'est que les 1200 sites les plus pollueurs aux États-Unis aujourd'hui ne sont plus obligés de rapporter, de faire l'inventaire de leurs émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que l'inventaire des émissions américains, on ne saura plus vraiment ce que les Américains projettent dans l'atmosphère désormais.
Trump ne voulait plus savoir, il a cassé le thermomètre et puis voilà.
Voilà, mais bon, ça veut pas. Donc, mais en tout cas, le manque d'action de lutte contre le réchauffement climatique entamé par Trump ne va pas faire une énorme différence. Toute la question, c'est de savoir si est-ce que le reste du monde va se laisser entraîner sur cette pente ou va maintenir le même niveau d'ambition. Ça va être le grand enjeu de la COP30 qu'on va avoir au Brésil, à Belém, au mois de novembre prochain. Le rôle joué par la Chine, et la Chine, c'est super facile pour elle désormais, parce qu'elle n'a besoin de rien faire, garder la stratégie qu'elle a actuellement, mais juste en miroir par opposition à ce que font les États-Unis aujourd'hui, bah, elle apparaît pour un champion du climat, alors que la Chine est aujourd'hui le premier émetteur de gaz à effet de serre au monde. À un programme, certes, elle s'approche de son pic d'émissions, mais la Chine construit toujours, a toujours des plans de centrales à charbon, même si on sait bien qu'elle investit énormément dans les renouvelables et notamment le photovoltaïque. Donc tout la COP30 qui va arriver va être cruciale à ce niveau, c'est pour voir quelle pente, quel degré d'ambition va avoir le reste du monde face à cette disparition américaine. On ne sait même pas s'ils vont envoyer une délégation à la COP30, parce que pendant un an, même s'ils sont sortis de l'accord de Paris, ça prend un an, donc techniquement, ils doivent y aller. On ne sait pas. Donc, c'est toutes ces questions qui restent ouvertes, alors que cette COP, voilà. Bon,
C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Marie Bélan, d'avoir participé à ce club. Je rappelle que vous êtes journaliste aux Échos. Merci à Raphaël Morand, Simon Rosé et Pauline Glaise de RFI. Demain, vous retrouverez Anne-Cécile Bras derrière ce micro. Raphaël Pluxva, Julia Pache, Mehdi Sadaoui, Diego Tenorio, Igor Strauss. Nous vous souhaitons une excellente journée.